Daniel Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de SMCP, hein, avec les différentes marques qui couvrent ce nom. On va en parler ensemble. Vous venez de lancer votre introduction en bourse. C'est un moment important pour la vie d'une entreprise. Où vous vous situez justement dans cet univers de l'habillement?
Mais écoutez, voilà, nous étions ravis de lancer, voilà, de se lancer dans le marché français, pas le marché français, la bourse française, vendredi passé. Nos ambitions, voilà, avec nos trois marques, Sandro, Maje et Claudie Pierlot, c'est de devenir leader global du luxe accessible. Donc voilà, avec les trois marques, et il y a énormément de potentiel devant nous, mais c'est notre ambition et notre mission du groupe. Et de diffuser le chic parisien dans le monde.
Justement, quand on parle de ce marché, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment ce luxe accessible qui prend, je dirais, qui se développe, ou est-ce qu'on est un peu dans le marché, c'est plutôt le plus bas, on va dire, je ne sais pas comment on l'appelle quand on est un peu en dessous de ce luxe accessible?
Oui, écoutez, j'ai envie de dire que le marché total de l'accessoire du prêt-à-porter mondial connaît une croissance historique de 4% par année, et on voit un peu la même type de croissance dans le futur. Et ça dépend, je pense que ça dépend plutôt par marque, plutôt que segment. Et nous, dans le luxe accessible, on pense que c'est un segment qui est très porteur dans le monde entier. Il y a des tendances structurelles dans le marché qui sont importantes pour nous, et des tendances pour les consommateurs. Notamment, un exemple, c'est la croissance de la classe moyenne dans le monde entier, et surtout en Chine. Qui nous est très favorable.
Alors c'est vrai que ça fait peut-être des années qu'on parle de cette classe moyenne chinoise. Est-ce qu'elle est là finalement? Parce qu'on voit des groupes de luxe qu'on parle bien sûr, mais est-ce qu'elle est là, et quel pouvoir d'achat elle a finalement par rapport à ce type de produit?
Écoutez, on la voit, elle est là. Évidemment, je prends un exemple en Chine. Seulement en Chine, on voit une croissance d'environ de 500 millions de nouveaux consommateurs juste en Chine d'ici l'année 2030 qui vont entrer dans la classe moyenne. Et ça, c'est que la Chine. Et à l'échelle mondiale, un peu moins de 2 milliards. Donc elle est là, on la voit aujourd'hui. Mais pour nous, ce n'est pas uniquement nos marques sont désirables, non seulement la classe, je dirais, moyenne, mais aussi beaucoup de clients de luxe. On voit beaucoup, beaucoup de clientes et clients de luxe venir dans nos boutiques pour acheter, voilà, le prêt-à-porter. Donc on est une des seules marques, avec les trois, avec Sandro, Maje et Claudie, qui sont très désirables, qui attirent une clientèle luxe, disons la classe moyenne. Et aussi, on voit des clients de Zara venir dans nos magasins pour acheter une robe spéciale, pour une occasion, ainsi de suite. Donc on arrive à pénétrer, si vous voulez, des segments de clients qui sont assez différents.
Alors, nous sommes ici au siège social, hein, à Paris. Les marques, finalement, restent séparées. C'est une des caractéristiques de votre siège social. Chacun travaille, finalement, au développement de sa marque. En quoi c'est important, vous qui venez d'un grand groupe, c'est important aussi pour le développement de la marque de garder cette identité propre?
Oui, c'est très important. Nous sommes structurés comme ça. Disons, c'est un réflexe un peu de mon expérience chez LVMH. On donne beaucoup d'autonomie à chaque marque, et c'est très important. Chaque marque, Sandro, a un ADN différent de Maje, différent de Claudie Pierlot. Elle a un positionnement un peu différent, elle attire une clientèle un peu différente. Et donc c'est très important de respecter cela, et c'est pour cette raison-là que les sièges des trois marques sont dans différents arrondissements de Paris. En revanche, toutes les fonctions que les clients ne voient pas, le back of house, ce que j'appelle la finance, le supply chain, l'informatique, sont très, très, très centralisées chez nous pour optimiser, aller plus vite. Et là, on s'inspire un peu plus du modèle d'un Zara. Mais en termes de développement des marques, les collections, l'image, le concept magasin, c'est très, très, très indépendant.
Alors, en tant que consommateur, on s'en rend bien compte. Quand on va dans des boutiques, ça change régulièrement de plus en plus vite. Il faut tenir la distance. Vous en êtes où, vous, justement, en lancement de nouveaux produits régulièrement? Ça se passe maintenant, quoi? C'est pas toutes les semaines, si?
Non, si, c'est effectivement toutes les semaines. J'ai envie de vous dire que c'est grâce à notre business model, qui est assez différent et unique, et très difficile à repliquer. Notre business model, il y a deux idées derrière. La première, c'est qu'on mélange, si vous voulez, les codes du luxe et les codes du fast fashion. Et ce qu'on prend du luxe, c'est tout l'aspect créatif, la direction artistique, un DA pour chaque marque, l'image. On utilise des photographes qui travaillent pour le luxe, par exemple. le service dans les magasins. Donc là, on s'inspire du luxe. En revanche, les cycles de produits sont très courts. Et pour répondre à votre question, chaque semaine, on lance 25 nouveaux produits dans chaque magasin pour chaque marque. Et ça, c'est le réflexe qu'on prend un peu plus du fast fashion. Et la deuxième idée derrière notre business model, qui est très, très, très unique, c'est que nous sommes des retail pure players. Donc, tous les magasins dans le monde entier, ce sont les nôtres, même les shop-in-shop dans les grands magasins. Et ça, c'est des points de différenciation qui sont très uniques pour notre groupe. Et ce business model est une des forces très stratégiques de création de valeur du groupe SMCP.
Alors, on parlait de l'introduction en bourse, elle servira notamment pour améliorer la situation financière, mais aussi en termes de développement, qu'est-ce que vous en attendez?
Mais plusieurs choses. D'abord, l'introduction en bourse, ça nous donne un peu plus de visibilité pour le groupe et ça nous donne les moyens financiers pour continuer à se développer. Et d'ailleurs, notre guidance et ce qu'on voit dans le futur, c'est de continuer d'ouvrir à peu près 80 à 90 nouveaux magasins par année. Donc, ça aide pour ça. Et notamment, on arrive à minimiser et baisser nos frais financiers. Donc, il y a plusieurs avantages avec cette introduction en bourse qui nous permet de continuer notre ambition du groupe.
Aujourd'hui, la stratégie principale, c'est la croissance organique sur les marques que vous avez déjà?
Oui, oui. Si la question, c'est focus des marques existantes versus d'autres marques qu'on peut rajouter dans le portefeuille dans le futur, pour l'instant, la priorité reste de continuer à développer les trois marques parce qu'on voit tellement de potentiel devant nous, à la fois la croissance en comparable, avec des leviers de croissance importants, et le développement du réseau dans des pays très sélectifs où on est à peine présent.
Le mot de la fin, passer d'un groupe familial à un groupe familial et coté en bourse, même si l'actionnaire majoritaire est un actionnaire chinois, ça change quand même la donne, puisque là, vous allez devoir communiquer de manière plus, on va dire, significative. Vous apprêtez effectivement à avoir cette pression de la bourse maintenant?
Écoutez, vu la performance historique et les plans que nous avons pendant les prochaines années, notre stratégie, oui, je suis assez confiant pour le futur. Évidemment, un peu plus de pression pour être un peu plus visible tous les trimestres, mais très serein avec l'équipe qu'on a en place, les marques très désirables, notre business model unique, ainsi de suite. Je suis serein.
Merci à Daniel Allon d'avoir fait le point avec nous et on le souhaite à toutes les entreprises qui viennent en bourse. On vous souhaite bon vent.
Merci beaucoup.